Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'homme, le mari de sa femme et son impact dans sa famille. Dans Éphésiens 5, versets 25, 28, 29, il est dit: Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair. Mais il la nourrit et en prend soin comme le Christ le fait pour l'Église. Cette parole s'adresse aux maris de façon précise. Aimez chacun votre femme. Il n'est pas question ici d'aimer des femmes, mais une femme en particulier, la mienne, l'unique, celle qui vit avec moi, qui partage ma vie, celle qui est la femme de la famille. Cet amour est unique puisqu'il est comparé à l'amour de Christ pour l'Église. Il y a un seul Christ, une seule Église. Donc un amour unique. L'auteur nous précise que cet amour est tellement unique qu'il nous pousse à nous livrer à l'autre. Aujourd'hui, tellement de personnes se donnent un jour à l'un, l'autre jour à l'autre, alors que Christ a donné sa vie. Donner sa vie signifie qu'on accepte la mort sur nous pour que l'autre ait la vie. Donner sa vie, c'est faire passer l'autre en premier. Avant, célibataire, je pouvais m'acheter des vêtements, des chaussures. Puis marié, c'est peut-être le conjoint qui a des besoins, qui aura la paire de chaussures. Mais maintenant qu'il y a des enfants, les sacrifices sont plus grands. Il y a le besoin des enfants qui est là. Et je dois pourvoir à leurs besoins. Idem pour les vacances. Lorsqu'il y a juste le couple, je peux aller en vacances dans certains lieux. Maintenant qu'il y a des enfants, je dois penser à leur bien-être. Des lieux plus calmes, les coucher plus tôt. Pour moi, faire moins de bruit le soir ou la journée. Je donne ce qui était ma vie pour bâtir ma nouvelle famille. C'est une semence dans leur vie. La notion d'exclusivité est aussi évidente lorsqu'il nous est demandé d'aimer notre femme comme notre propre corps. J'ai un seul corps et j'en prends soin. Je dois donc avoir une seule femme et en prendre soin. L'expression « prendre soin » vient du grec « talpo » qui signifie « chérir d'un tendre amour », « soigner tendrement avec affection ». Je dois prendre soin de mon épouse, la chérir d'un tendre amour, avoir de l'affection, ne pas la négliger, apprécier ce qu'elle fait. J'ai une épouse qui est une merveilleuse cuisinière et j'aime bien lui dire que ce qu'elle fait est bon. Combien d'hommes rentrent du travail, s'assoient à table et mangent sans remercier leur épouse pour ce qu'elle a préparé. Ces hommes font des remarques à leur épouse lorsqu'il manque du sel ou du poivre dans le plat, mais ils ne pensent pas à la complimenter pour les heures passées à préparer le repas. Rapidement, ces mêmes hommes s'étonnent que leur ado traite leur maman comme une bonne. Et c'est à moi à montrer concrètement l'amour que j'ai pour ma femme. J'aime dire à mon épouse combien j'apprécie mes chemises prêtes et propres chaque matin. J'aime la maison dans laquelle nous vivons parce que mon épouse en prend tellement soin, chaque chose étant à sa place. Et j'exige de mes enfants qu'eux aussi prennent soin de la maison dont la maman s'occupe. C'est une mentalité qui doit régner dans le foyer. C'est le mari qui va couvrir, cautionner, protéger son épouse devant les enfants. Alors j'aime la prendre dans mes bras, lui dire qu'elle est précieuse à mes yeux. J'aime aussi lui dire que je l'aime pour qui elle est, pas seulement pour ce qu'elle fait. C'est peut-être cela aussi, prendre soin de sa femme. La complimenter pour ce qu'elle est, l'encourager dans les domaines où elle excelle et ne pas la décourager dans les domaines où elle est moins qualifiée. Il est dit aussi que l'homme doit la nourrir. Le mot « nourrir » vient du grec « ektrepo » qui signifie « nourrir jusqu'à maturité ». L'homme doit subvenir aux besoins de sa compagne, permettre qu'elle ne manque de rien, tant sur le plan physique que spirituel. Et dans ce sens, l'homme doit subvenir aux besoins de la famille. Il ne se décharge pas sur son épouse, c'est pas sa mère. Il en prend soin, il prend soin de son épouse, il ne la néglige pas. Il apprécie ce qu'elle fait. Une femme qui est négligée et qui n'est pas encouragée n'aura pas envie de soutenir et d'aider son mari. Le Proverbe 5, versets 18 et 19 nous dit « Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. » Être enivré de ses charmes en tout temps, printemps, été, automne, hiver, jeune et moins jeune. Certaines traductions de la Bible disent « être enivré de ses seins ». J'aime lui dire qu'elle est belle. D'abord parce que c'est vrai. Et aussi mes enfants et petits-enfants entendent cela. et eux-mêmes ont pris pour habitude de la complimenter. C'est une mentalité qui est entrée dans la famille. On aime se dire que ce que l'on fait est bien. On aime se dire que l'on est capable. En 40 ans de mariage, nous avons vu nos charmes changer, pour ne pas dire évoluer. Et ce qui a séduit mon épouse sont mes yeux bleus, mes cheveux longs et bouclés. En maillot de bain, on pouvait apercevoir mes abdominaux, qu'on appelle aujourd'hui des tablettes de chocolat. Depuis, il y a eu quelques changements. Indépendant de notre volonté, les cheveux longs et bouclés, et il ne reste plus qu'une piste d'atterrissage pour les mouches. Concernant les tablettes de chocolat, tout porte à croire qu'elles ont légèrement fondu. Seule la couleur des yeux n'a pas changé. Je vous fais grâce d'autres modifications intervenues par ailleurs chez mon épouse. Mais c'est dans ce contexte de changement, mot à la mode, que nous allons être enivrés des charmes de l'autre. Pourquoi chercher ailleurs ce que l'on a à la maison? Je reste persuadé, et je le découvre souvent, que chaque saison de la vie de l'homme a un charme particulier. Je travaille à aimer ma femme chaque jour davantage, à être renouvelé dans mon amour pour elle. Nous avons décidé ensemble de sortir régulièrement au restaurant en amoureux, de prendre du temps pour nous deux, sans les enfants. Nous voulons continuer à nous découvrir, en dehors du train-train quotidien de la vie. Et là, nous ne parlons plus des enfants ou des factures. Il n'y a pas de cuisine à faire. Nous profitons l'un de l'autre et nous nous séduisons à nouveau. Nos enfants aiment savoir que nous prenons soin de notre couple. Alors que nous partions tous les deux pour un week-end en amoureux, mon fils me disait « Tu as bien raison, profitez-en. » Maintenant que tous mes enfants sont mariés, c'est ce qu'ils font à leur tour. Ils prennent du temps, de temps en temps, des week-ends en amoureux. Notre femme va être l'objet de notre amour, et pas seulement sexuel. Nous devons apprendre à porter notre regard sur elle, et pas ailleurs. Dans 1 Corinthiens 7, au verset 5, il est dit « Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est momentanément d'un commun accord, afin d'avoir du temps pour la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. » Il y a dans ce verset un équilibre qui me paraît fondamental pour notre vie de famille, à savoir de ne pas se priver l'un de l'autre et de prier ensemble. La traduction de l'abbé Crampon de 1905 nous dit « Ne vous soustriez pas l'un à l'autre ». Alors que nous enseignons avec mon épouse dans le cadre d'un séminaire sur la famille, en commentant ce verset, j'ai fait la remarque suivante. Il y a un équilibre à avoir entre le temps que vous passez avec votre épouse dans la prière et ensemble pour les câlins. Si depuis que vous êtes converti, vous priez beaucoup et n'avez plus de temps ensemble pour les câlins, il faut peut-être vous couper les ailes. Par contre, si depuis que vous êtes converti, vous ne priez pas ensemble et que vous passez beaucoup de temps à faire des câlins, il faut peut-être couper autre chose. Bien sûr, ceci était dit sur un ton humoristique. L'assemblée a bien ri. Mais plusieurs sont venus me voir à la fin de l'enseignement pour me préciser que cette boutade leur avait bien parlé. La fin de ce verset, mes amis, nous met en garde contre l'incontinence. Car le diable cherche ce moyen pour nous tenter et nous pousser jusqu'à convoiter d'autres femmes. Ce qui serait un vrai drame pour vous et pour votre famille. Dans 1 Corinthiens 7, au verset 33, il est dit que celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Notre conjoint, nos enfants, même s'ils nous aiment tendrement, ont un regard sur l'extérieur. Sans mépris pour ce que la Bible appelle le monde, il me paraît intéressant de ne pas vivre en vase clos et de s'intéresser aux choses du monde, telles les progrès technologiques, autres choses qui peuvent améliorer notre vie et les tâches de chaque jour, sans déplaire à Dieu. Au début de la télévision, certains chrétiens ne la regardaient pas, car c'était le diable. On a vu la même chose lorsque les premiers ordinateurs sont apparus. J'ai moi-même rencontré des personnes qui, de bonne foi, étaient très inquiètes, car leur enfant désirait un ordinateur. C'était le diable qui rentrait dans la maison. Ne tombons pas dans l'excès non plus. La Bible nous demande de s'inquiéter des choses du monde et des moyens de plaire. Donc, tout n'est pas mauvais. Hébreux 13, verset 4, nous exhorte que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Il y a deux points importants dans ce verset, que le mariage soit honoré de tous. C'est-à-dire que je ne permets à personne de se moquer de notre couple, de toucher à notre mariage, même en blaguant. Pour nous, ce serait lui manquer d'honneur. On ne touche pas à notre mariage. Et le deuxième point parle du lieu d'intimité. Soyons déterminés à ne pas souiller le lit conjugal par l'impudicité. Dieu connaît toutes nos pensées et nos motivations. Même quand nous allons nous coucher, la chambre des parents est un lieu particulier, un lieu où tout est partagé et donné. Mais rien ne doit être pris de force. C'est l'amour agapé qui règne dans ce lieu d'intimité. Nous ne devons pas vivre uniquement l'amour éros, mais l'amour agapé. Car dans l'amour, on se donne, on ne prend pas.